L'histoire à contre-courant, une émission proposée par Anne Bernet.
Chers auditeurs, bonjour. Nous avons le grand plaisir de recevoir le professeur Jan Leboeck. Monsieur Leboeck, bonjour.
Oui, bonjour madame, bonjour à tous les auditeurs aussi.
C'est toujours un grand plaisir de vous recevoir car vous êtes l'un des très grands spécialistes français de l'histoire romaine. Vous êtes notamment le spécialiste de l'histoire militaire de Rome, sujet auquel vous avez consacré des ouvrages d'une importance majeure. Je pense à l'histoire des guerres romaines, plus récemment la vie quotidienne des soldats romains à l'apogée de l'Empire, une histoire des guerres puniques, la guerre romaine, l'armée romaine et la crise du Bas-Empire. Une biographie de Lucullus, un ouvrage sur Spartacus, pour n'en citer que quelques-uns. Vous venez de publier Les Juifs dans l'Afrique romaine aux éditions Memoring, un ouvrage de 120 pages vendu 22 euros. C'est un essai tout à fait passionnant sur la place des communautés juives dans l'Afrique romaine. Jan Leboeck, vous êtes vous-même né à Carthage, ce qui n'est quand même pas donné à tout le monde, et cela explique évidemment certains de vos sujets d'études et d'intérêt. Pourriez-vous nous rappeler ce qu'est cette Afrique romaine qui s'étend à l'époque de la Libye moderne jusqu'à la Mauritanie tagitane, la région de Tanger au Maroc ?
Je vous remercie pour cette présentation que je trouve un peu trop élogieuse, mais évidemment très gentille. Je voudrais dire d'abord aux auditeurs, vous redire à vous, vous le savez, mais dire aux auditeurs que je ne suis pas juif mais catholique et que je suis historien surtout. C'est-à-dire que j'étudie tous ces thèmes, quels qu'ils soient, aussi bien Spartacus que les Juifs, de manière aussi neutre que possible. Mon projet est toujours d'établir ce qui s'est passé, ce qui a été à l'époque romaine, et jamais de porter des jugements de valeur, de dire c'est bien, c'est mal, je suis favorable à, je suis hostile à. Alors, pour répondre à votre question sur l'Afrique romaine, c'est un territoire qui est évidemment immense, puisqu'il commence au fond du golfe des Sirtes, qui coupe en deux la Libye, si j'ose ainsi m'exprimer, géographiquement, et cette région va jusqu'au Maroc. Elle est constituée par plusieurs provinces, à l'époque du Haut Empire, la proconsulaire, dont la capitale était Carthage, la Numidie, qui a été créée à l'extrême fin du IIe siècle après Jésus-Christ, et les Maurétanies, qui correspondent à l'Algérie centrale, occidentale, et au Maroc. Toutes ces régions ont été, quoi qu'on en ait dit, parfois, ce qui est surprenant, extrêmement romanisées. Elles ont été très marquées par l'empreinte de Rome. Les simples touristes s'en rendent compte quand ils visitent des sites comme Lepsis Magna en Libye, qu'on ne peut plus voir actuellement, malheureusement, Douga en Tunisie, Timgad en Algérie, Volubilis au Maroc, tout le monde voit des villes romaines extrêmement importantes, extrêmement étendues, couvertes de monuments tout à fait splendides. Ceux qui sont en plus d'être touristes des intellectuels savent que l'Afrique romaine a livré environ 50 000 inscriptions, ce qui est considérable, hein. C'est cinq fois plus que la Gaule. L'Afrique était beaucoup plus romanisée que la Gaule, et ces inscriptions sont toutes rédigées dans un latin impeccable et gravées de manière superbe. Et en dehors de cela, je ne veux pas trop m'étendre là-dessus sur cette romanité de l'Afrique du Nord, il y a eu des écrivains extraordinaires comme Apulée, un romancier qui était polythéiste, je préfère dire polythéiste que païen, Tertullien, dont nous parlerons tout à l'heure, Saint-Cyprien, et surtout Saint-Augustin. Alors Saint-Augustin, en un mot, je dirais que c'est sans doute le plus grand esprit de l'Antiquité, et toute sa conception du christianisme a marqué l'Église jusqu'à ce que Aristote l'emporte sur Platon, qui était le philosophe de Saint-Augustin. Mais il y a encore à l'heure actuelle beaucoup d'Augustiniens dans le monde entier, notamment en France, bien entendu.
Et ce sont, comme vous venez de le dire, Jan Leboeck, quelques-uns des plus grands écrivains de langue latine. Quand on lit Augustin, on est transporté, dès qu'on est latiniste, on est transporté par la beauté de la langue d'Augustin. Mais même Cyprien, Il y a déjà dans Saint-Cyprien des élans qui font penser à la plume d'Augustin et Tertullien. Bon, quand on a lu l'apologétique, on est quand même saisi par la puissance du verbe de Tertullien. Quant à Apulée, c'est un autre esprit, mais ce sont effectivement quelques-uns des plus grands auteurs latins. La Gaule n'en a pas donné autant.
Incontestablement. Il faut oublier toute la situation du 19e siècle qui était inversée, où c'était la France qui était romaine et l'Afrique du Nord qui était arabe, arabisée. C'était l'inverse dans l'Antiquité.
Au cœur de ces provinces, assez contrastées d'ailleurs, il y a Carthage, ou plutôt la ville romaine de ce nom, qui a remplacé la cité punique détruite à la fin du conflit avec Rome. Alors, est-ce la deuxième, la troisième, la quatrième cité de l'Empire ? Est-ce qu'en nombre de population, elle vient après Alexandrie et Antioche ou avant ? On ne le sait pas exactement, mais ce n'est pas rien. Même si Saint-Augustin, un jour, se trouvera un peu à l'étroit dans ce qu'il appelle la grande friteuse des amours, s'adultère.
Oui, Carthage est incontestablement une des plus grandes cités de l'Empire. Alors c'est étonnant parce qu'elle a été détruite en 146 avant Jésus-Christ, comme vous l'avez dit. La cité punique a été rasée et incendiée, elle aurait brûlé pendant une semaine, et le sol a été interdit, donc le site a été complètement abandonné. Et puis César d'abord et Auguste ensuite, donc Auguste premier empereur, a voulu très tôt recréer une cité à Carthage. Et comme il était chef de la religion romaine, César l'était aussi, un souverain pontife, c'était Pontifex Maximus, il pouvait revenir sur l'interdit qui avait été lancé en 146 avant Jésus-Christ. Ils ont décidé d'y installer une colonie, c'est-à-dire une cité de droit romain, où tous les gens étaient citoyens romains par droit du sol. Comme vous avez dit, je suis né à Carthage, donc je suis citoyen romain par droit du sol. Et cette cité a été d'abord une espèce de monstre par les monuments qui s'y trouvaient, c'est-à-dire que l'État romain y a installé tout ce qu'il fallait pour faire une grande ville, mais il n'y avait pas d'habitants. Et les habitants sont arrivés petit à petit, la ville s'est développée jusqu'à devenir cette très grande ville que vous avez évoquée. Alors, il y a des touristes évidemment qui ont visité Carthage, et qui peuvent être déçus. C'est très compréhensible en se disant « bon, nous n'avons pas vu grand-chose, voire nous n'avons rien vu du tout, sauf quelques morceaux de pierre ». En réalité, il faut bien imaginer que sous la cité actuelle, il y avait partout des constructions romaines, et ce sont les constructions d'abord de l'époque du protectorat, qui ont recouvert certaines de ces ruines, puis alors celles de la période de l'indépendance, où le président Bourguiba d'abord et son successeur Ben Ali ensuite ont construit un énorme palais qui recouvrait une partie de la ville et où un grand nombre de constructions ont été installées sur des ruines anciennes. Donc il ne faut pas se fier à ce qu'on voit, sauf que si on y réfléchit un petit peu, ce qu'on voit est extrêmement dispersé et surtout est dispersé sur un territoire étendu, très large.
Mais la ville antique était immense, avec des parcs, des jardins, des boulevards. On a le témoignage d'ambassadeurs austrasiens au VIe siècle qui débarquent à Carthage, et pourtant on est après la période vandale, où la ville a quand même un peu souffert. Et ils sont absolument suffoqués parce qu'ils voient qu'on n'a plus rien de pareil en Europe.
Ah oui, bien sûr, Carthage est inférieure à Rome, hein, bien entendu, en étendue, en démographie et en prospérité, mais en Europe, il n'y a aucune cité qui soit égale à Carthage.
Rien d'étonnant dans ces conditions, Yann Le Boeck, est-ce que la diaspora juive, qui est nombreuse et organisée, soit attirée par ce pôle politique et commercial et universitaire ? Cependant, vous ne pensez pas, à la différence d'un certain nombre d'historiens, que l'installation des Juifs à Carthage date de l'époque punique. Quelles sont vos raisons ?
Eh bien, je reprends un petit peu le problème d'abord, du point de vue méthodologique. Il y a eu quelques auteurs au XXe siècle qui ont voulu absolument que des Juifs soient arrivés au XIe siècle avant Jésus-Christ, en disant la langue hébraïque et la langue punique étaient très proches, donc là où il y avait des puniques, il y avait des Juifs. Si vous réfléchissez à ce syllogisme, c'est complètement absurde. Et puis, ils ont dit, mais en plus, nous avons trouvé des traces archéologiques qui prouvait cette présence juive à l'époque punique. Alors, j'ai repris tout le dossier et je n'ai rien trouvé qui soit acceptable. Ce sont toutes des inventions, des références fausses, etc. Alors, je ne comprends pas très bien pourquoi ces gens-là ont voulu inventer une présence juive à l'époque punique. Mais moi, pour ma part, je n'ai aucun document qui la prouve.
Vous rattachez donc, Jan Neubrek, l'arrivée de la communauté juive d'Afrique en proconsulaire au drame qui vont frapper la Judée, d'abord au 1er siècle avec la fameuse guerre des Juifs, qui aboutit en 70 à la prise et la destruction de Jérusalem par les légions de Titus, puis en 136 aux soulèvements juifs qui vont d'ailleurs frapper également certaines communautés de la diaspora, y compris celle de la Cyrénaïque, qui vont être écrasés impitoyablement par l'empereur Adrien, qui ira même jusqu'à débaptiser Jérusalem, qui deviendra Elia Capitolina, et effacer toute trace du passé, d'ailleurs non seulement du passé juif, mais également chrétien, puisqu'il détruira ou il essaiera de détruire les lieux saints. Nous avons donc effectivement une communauté qui serait arrivée parce qu'elle est chassée de Judée.
Il est certain qu'après la prise de Jérusalem en 70, qui mettait un terme à une guerre qui avait duré de 66 à 70, et qu'après la fin de la deuxième insurrection juive qui avait duré de 132 à 136, un certain nombre de juifs ont été chassés de ce territoire de deux manières, soit parce que l'État romain a installé des citoyens romains à leur place, soit parce que certains de ces juifs ont été pris comme esclaves. Les prisonniers de guerre devenaient automatiquement esclaves dans l'Antiquité. Et ces esclaves ont été utilisés ailleurs qu'en Judée. Peut-être n'est-ce qu'une simple coïncidence. Quoi qu'il en soit, d'après mes recherches en particulier sur les inscriptions, je n'ai rien trouvé qui soit antérieur à la fin du 1er siècle de notre ère. Donc c'est pourquoi je suppose que l'arrivée des premiers juifs en Afrique du Nord est une conséquence de la guerre de 66-70. Alors c'est vrai que 70, c'est la destruction du temple de Jérusalem, mais il ne faut pas oublier qu'il y a eu 4 ans de guerre auparavant et qu'à chaque fois, après chaque bataille, chaque ville capturée, chaque prise de ville, il y a eu Kapar-Kotna notamment, puis Jérusalem, puis Massada, mais Massada c'est après en 73 ou 74, après chaque prise de ville, chaque bataille, il y avait un grand nombre de prisonniers qui devenaient automatiquement esclaves. Alors je suppose que ce sont d'abord des esclaves, puis dans le même temps des hommes libres, mais qui ne pouvaient plus rester dans un pays où ils étaient privés de leur domaine.
Vous soulevez un point intéressant, Jan Leboeck, quand vous dites que c'était probablement des prisonniers de guerre qui ont été déportés et réduits en esclavage. Cela signifie, dans ce cas-là, qu'on leur a laissé la liberté de pratiquer leur culte.
Oui, parce qu'il y avait une loi de César, celui que l'on appelle couramment Jules César, mais je n'aime pas trop cette appellation, il ne faut pas l'appeler Caius Julius César. Il y avait une loi de César qui accordait aux Juifs un certain nombre de privilèges. En effet, quand César avait fait la guerre contre les Pompéiens en Égypte, les Juifs l'avaient aidé parce qu'ils détestaient Pompée et les Pompéiens, et ses successeurs, les Pompéiens. Pompée était mort à ce moment-là.
Il avait profané le temple.
Avait profané le temple et avait montré un mépris profond pour la religion des Juifs. Donc cet édit accordait aux Juifs un grand nombre de privilèges, et notamment celui de pratiquer leur religion. Le sabbat était autorisé, la construction de synagogues était autorisée, l'organisation synagogale était autorisée, les Juifs étaient dispensés de service militaire parce que, effectivement, des soldats qui voulaient pratiquer le sabbat, ça n'était pas bien pratique. Et ils pouvaient pratiquer la circoncision, qui était normalement interdite par le droit romain parce que c'est une mutilation et que le droit romain interdisait toute mutilation, même à l'égard des esclaves. Et donc, ça n'était pas possible sans un accord de l'État.
Jan Neubrek, cette émission s'achève. Je rappelle que vous publiez aux éditions Memoring Les Juifs dans l'Afrique romaine, un ouvrage tout à fait remarquable. Et je le recommande à tous ceux que la période intéresse, à tous ceux que l'Afrique romaine intéresse, à tous ceux que l'histoire du judaïsme intéresse. Jan Neubrek, un grand merci.
C'est moi qui vous remercie et je salue tous les auditeurs. Au revoir, madame.
Au revoir.